Durant la décennie 1890, le télégraphe sans fil connaît d'importantes avancées technologiques. Mais sa mise au point demande des investissements très conséquents. La radio avait un avenir commercial auprès des entreprises et notamment les armateurs de paquebots. Coucou le Titanic! Mais encore une fois, il était bien plus intéressant financièrement et fiscalement d'en vendre l'usage aux militaires. Le chemin est quasi tracé. Le télégraphe est entré dans les mœurs des états-majors. Il devint vite important pour les armées de déployer le plus vite possible le câble du télégraphe sur les terrains d'opération. Ainsi, durant la guerre de sécession, de 1861 à 1865, l'armée unioniste a constitué un régiment du génie, le Signal Corps, qui plante les poteaux et tire le fil qui chante le long des chemins de fer. Avec une portée de transmission annoncée de plusieurs milliers de kilomètres, la télégraphie sans fil annonçait un net gain pour les télécommunications militaires, surtout pour la marine. Mais du coup, les communications pouvaient aussi être captées en territoire ennemi, il faut donc en sécuriser la confidentialité. Guglielmo Marconi crée à la fin des années 1890 un dispositif permettant de n'émettre que sur une longueur d'onde très précise. Contrairement aux premières émissions radio à étincelles qui émettaient sur un très large spectre et avec leurs émetteurs qui claquaient plus bruyamment que le tonnerre. En businessman, le physicien italien attend que ses brevets soient validés pour les commercialiser, mais cela ne l'empêche pas de vanter son invention. Marconi proclamait notamment qu'il était impossible d'intercepter et de remplacer un message car les fréquences étaient trop difficiles à écouter. Et que donc sa radio était un média sécurisé et confidentiel. En février 1903, il s'épanche dans la presse anglaise, se vantant comme suit. « Je peux régler mes instruments de manière à ce qu'aucun autre instrument qui n'est exactement réglé de la même manière puisse écouter mes messages. » La lecture publique en juin 1903 à Londres par son partenaire John Ambrose Fleming devant la Royal Society devait en faire la brillante démonstration. À 500 km de là, Guglielmo Marconi se prépare à émettre un message convenu sur un émetteur de son invention. Du haut de ses 29 ans, il sait que cette démo publique va consolider sa réputation scientifique, mais aussi le crédit de ses entreprises qui en ont justement besoin de l'argent frais. Mais alors que Fleming commence à parler à la foule, l'appareil récepteur à ses côtés se met à faire des tic-tic-tic-tic, recevant un message en morse. Des personnes dans l'assistance montrent un certain malaise quand le message est décodé. Rats, 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 rats. There was a young fellow of Italy who diddled the public quite prettily. Ra, 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 ra. Un jeune homme italien a joliment roulé le public.
Plantage.
La méthode d'envoyer publiquement des injures limite racistes était loin d'être la plus fine. Mais elle a clairement démenti l'affirmation censée être démontrée ce soir-là. Ce premier piratage radio, un hack avant l'heure, fut qualifié de hooliganisme scientifique par Fleming dans une interview au Times où il l'invita à dénoncer son auteur. 4 jours après, le prestigieux quotidien reçut une lettre revendiquant l'action. Neville Maskelyne revendiqua le piratage. Un illusionniste de 39 ans, artiste de music hall, certes, mais aussi scientifique amateur. Il fait partie d'une longue tradition d'illusionnistes qui attaquent les affabulateurs scientifiques et imposteurs pseudo-scientifiques. Pour le plaisir, je ne peux m'empêcher de citer Harry Houdini contre le spiritisme, après qu'il y ait cru lui-même, James Randide contre la mémoire de l'eau de Jacques Benveniste, qui devait prouver l'homéopathie, et Gérard Majax contre la parapsychologie d'Uri Geller, qu'il cassa la télévision en direct face à Geller lui-même. Bah oui, quoi de mieux comme expert en fraude que des spécialistes de l'illusion et de la dissimulation. Un challenge nettement plus passionnant que sortir une colombe d'une manche. Maskelyne motiva son acte par les nombreux dépôts de brevets de Marconi qui s'appropriaient parfois les travaux de Heinrich Hertz et de Nikola Tesla. C'est exact, mais dans les faits, l'illusionniste amateur de sciences physiques a été approché par la Eastern Telegraph Company qui a tiré des câbles sous-marins transcontinentaux jusqu'aux Indes. Un investissement conséquent et un monopole sur la messagerie instantanée, le télégraphe, mis en danger par des démonstrations de transmission transatlantique de Marconi en 1901. Eastern Telegraph Company finança Neville Maskelyne pour qu'il espionne Marconi et démontrait d'éventuelles faiblesses dans ses inventions. Maskelyne érigea un mât antenne de 50 mètres, pas loin d'une des stations émettrices de Marconi. Et comme il le dit dès 1902 dans la revue spécialisée The Electrician, le problème n'était pas d'intercepter les messages, mais de gérer l'importante puissance radioélectrique reçue. Car oui, un an avant, il avait déjà prouvé qu'on pouvait écouter les messages avec un récepteur sans sélecteur de fréquence, alors que la technologie des fréquences devait justement écarter les oreilles indiscrètes. Ce soir-là, en montant la première station radio pirate, Maskelyne avait publiquement démontré qu'on pouvait aussi émettre à la place d'un émetteur de Marconi sans pouvoir différencier la source. Ce n'est pas ce hacking qui va arrêter la radio, ni les entreprises du serial start-upper Marconi, mais le physicien italien a clairement survendu les capacités de son invention pour valoriser exagérément les brevets et obtenir un financement des militaires. Il est plus que probable qu'il clamait l'improbable en connaissance de cause, à savoir la confidentialité d'une fréquence radio dans une diffusion omnidirectionnelle. Et il semblerait que Guglielmo Marconi en soit tellement coutumier qu'un siècle plus tard, des spécialistes remettent en question sa supposée première transmission radio transatlantique en 1901. Au final, dans cette cascade, seul l'ego du physicien italien fut blessé, ainsi que celui de Fleming, lequel s'est pencha dans la presse pendant des semaines, traitant l'acte de Maskelyne comme une insulte à la science. Maskelyne répondit poliment en lui suggérant de se concentrer sur les faits. « Je rappelle au professeur Fleming que l'injure n'est pas un argument », écrit innocemment le drôle qu'ils avaient traité de rat. Les militaires en tirèrent vite les conclusions qui s'imposaient après cette contre-démonstration. La radio est une infrastructure publique où n'importe qui peut écouter ou émettre. Pour la confidentialité, il faudra donc ajouter une couche de chiffrement. Le cryptage par fréquence secrète a montré son échec, à moins d'émettre que très rarement sur une fréquence, ce que font encore certains services secrets actuellement. Les travaux de Marconi et de Fleming furent extrêmement utiles pour le développement de la radio, tout comme ceux d'Hertz, de Tesla et d'autres physiciens contemporains. Ils ont juste été survendus. Quant aux câbles sous-marins, les diplomates allemands passèrent à la radio quand les Britanniques coupèrent délibérément leurs câbles sous-marins, permettant aux renseignements britanniques de les mettre sur écoute. C'est en 1914. Eh oui, déjà.